cat food again. Bonjour à tous et à toutes, salut Justine, je te parle depuis ma chambre exceptionnellement aujourd'hui où j'enregistre cette chronique avec Théo, une chronique en différé une fois n'est pas coutume, mais nous n'avons pas coordonné nos plannings de vacances, donc voilà, il se trouve que moi c'est cette semaine que j'étais en vacances, et toi tu n'étais pas là les deux dernières semaines, donc ça faisait quand même déjà longtemps sans chronique, et on s'est dit bon, on va en pré-enregistrer une que vous allez diffuser ce soir, donc on te fait coucou depuis le passé d'il y a 3 semaines. Donc une chronique particulière parce que en différé et pas en direct, et aussi puisque j'ai invité pour l'occasion Théo. Salut Théo.
Et bonjour à tout le monde.
Donc Théo, c'est entre autres notre nouveau colocataire ici à la Brousse, et c'était important d'inviter Théo à faire une chronique avec moi pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un fin cuisinier comme on en fait peu, et parce qu'il a participé la deuxième chronique qu'on a réalisée, qui était une chronique en studio, c'était la deuxième, sur les ragoûts, il avait participé à la préparation, puisque c'est lui qui m'avait donné la recette du Miramax, un ragoût que je vous avais raconté pendant cette chronique. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de ragoût à nouveau, une chronique un peu particulière, une chronique sur les ragoûts d'été, sur les plats en sauce d'été. Donc voilà, on est parti un peu du constat que c'est pas forcément courant, c'est pas forcément dans nos habitudes que de se faire des plats en sauce l'été. Et du coup, bah, nous, on s'est dit qu'on avait envie de manger des plats en sauce toute l'année, été comme hiver. Et voilà, moi quand je sers un ragoût en plein été, on me dit souvent mais c'est pas du tout adapté à la saison. Voilà, on va essayer de déconstruire un peu ça, de voir que c'est plus dans nos habitudes culinaires. Est-ce que ça t'évoque toi quelque chose, les ragoûts qu'on mange sous le soleil à suer comme des bœufs?
Mais bien évidemment, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut arrêter d'être gourmand.
Alors, est-ce que peut-être t'as des exemples de plats en sauce qu'on mange sous un soleil de plomb? Qu'est-ce que ça t'évoque comme plat? Est-ce que t'as des exemples?
Oh bah déjà, j'aurais en tête le Miramax, hein, toute saison, à tout moment de l'année, toujours un régal. Le bœuf bourguignon, hein, il fait toujours plaisir lui aussi, histoire de passer une bonne après-midi à siester jusqu'à la fin de journée. Et moi aujourd'hui de mon côté, je vais probablement vous parler du veau aux olives.
Ok, super. Alors moi j'avais quelques exemples de plats qui sont plutôt des plats en sauce, des plats assez chauds, assez lourds, qu'on a plutôt envie de manger sur le soleil, sous le soleil. J'ai le tagine en exemple, qui est un plat maghrébin, donc qui se mange en saison chaude également. J'ai une recette que j'adore, c'est le poulet basquez. J'adore le poulet basquez. Les currys, en fait, qui sont des plats en sauce, d'origine indienne à la base. Est-ce que tu veux nous. Là, ici, je viens te chercher parce que je te connais un peu et j'avais envie de venir te chercher aussi sur la cuisine réunionnaise. Est-ce que tu as des exemples rapidement de plats en sauce réunionnais? Est-ce que tu peux nous dire. Sous quel climat est-ce qu'on les mange?
Bien sûr. Alors, à La Réunion, c'est souvent des plats à base de sauce tomate. On va être sur des rougailles saucisses, des boucanés bringelles. Le boucané bringelles, c'est à base d'aubergines et de boucané de porc. C'est une façon de faire fumer la viande de porc. On est sur des plats assez stock, hein, avec des grandes quantités de riz, souvent servi avec du grain en plus de ça. Et bien évidemment, pour avoir une petite couche de frais, on rajoute souvent le rougail, la petite sauce à côté. Qui est une sauce à base d'huile d'olive, d'oignon et en général d'un fruit de saison qu'on vient couper dedans et hacher et qu'on vient balancer par-dessus le reste de la garniture.
Ok, donc on a un plat en sauce chaud et qu'on sert avec des garnitures froides, c'est ça?
Pas nécessairement froides, en général ouais. Tout est chaud.
Ok, eh ben super. Moi, j'avais une petite. Avant d'attaquer les deux recettes, j'avais un petit tips pour consommer des plats en sauce l'été. C'est qu'un plat en sauce, on n'est pas obligé de le consommer à ébullition en sortie de four ou de fourneau. Moi, je vais vous parler d'un plat en sauce qu'on peut consommer chaud ou tiède. Et moi, j'avoue, j'ai même beaucoup mangé les sauces des plats en sauce froide. Voilà, j'ai un petit souvenir d'adolescence, aller taper dans les plats en revenant de soirée ou le matin au petit-déj. Et ça me fait
Les
beaucoup
meilleurs
plaisir.
souvenirs.
Ok. Alors, cette chronique, elle est un peu différente aussi sur le format, puisque, alors bien sûr, on va aborder les techniques, hein, on va aborder les techniques de ragoût. Je pense qu'on va peut-être avoir des manières de faire un peu différentes sur la technique du ragoût en elle-même. Et moi, je vais introduire une autre technique. Mais on va plutôt cette fois partir des recettes pour aller explorer différentes techniques, plutôt que, comme d'habitude, parler des techniques d'abord et pour amener des recettes pour illustrer. Voilà, petit changement de manière de faire, mais vous allez voir, c'est pas trop perturbant. Et si tu veux bien, je commence par donner une recette de ragoût que j'adore manger en été, qui est la recette du goulash. Donc le goulash, c'est le ragoût typique des pays, plus zone des Balkans, Europe de l'Est. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est même plutôt Hongrie, Roumanie, Pologne. Le berceau du goulash. Donc j'imagine qu'il y a autant de goulash qu'il y a de cuisine en Hongrie. Donc voilà, je vais vous donner ma recette du goulash, qui est une recette que j'adore. Et si vous voulez aller regarder des recettes de goulash sur internet, je peux vous conseiller la recette de chef Michel Dumas. Je sais pas si tu connais ce
Ouais, si, bien
youtubeur
sûr.
avec sa grande moustache. Voilà, c'est pas cette recette-là que je vais vous donner, mais sa recette est sympa. Alors moi, il y a un ingrédient particulier dans ma recette du goulash qu'il faudra ajouter à la fin. C'est un concentré de poivron. On ne trouve pas vraiment beaucoup ça, les concentrés de poivron ici dans le commerce, mais on peut réaliser un concentré de poivron plutôt simplement. Donc ça va être la même type de recette qu'un concentré de tomate. Et donc je vous donne la technique pour le concentrer. Donc il va falloir commencer par monder les poivrons. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire monder les poivrons?
Euh,
Monder les
ça,
tomates?
ça va être enlever tout ce qui est grain,
Alors
les
monder,
graines ou
c'est
tout ça.
enlever la peau. Donc
Ah.
évidemment, il faut les couper en deux, les poivrons, enlever les grains et l'épinay. On va essayer d'enlever la peau. Donc c'est un peu fastidieux. J'ai trouvé plusieurs techniques pour faire ça en baladant sur Internet, dont certaines incluent l'utilisation d'un chalumeau, mais moi je fais pas ça. Donc vous allez faire rôtir les poivrons un quart d'heure dans un four chaud. Ça peut aller jusqu'à 220 degrés pour le four. Donc une fois sorti du four, vous allez tout de suite les passer dans un bol d'eau glacée, donc dans une glaçante avec des glaçons et de l'eau. Tout de suite, avec le choc thermique, la peau va se rétracter. Et là, normalement, vous pouvez enlever la peau des poivrons sans trop galérer. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette opération. C'est l'opération la plus difficile de la réalisation de ce goulash. Donc ensuite, vous faites suer une échalote dans l'huile d'olive, une échalote ciselée. Et puis, vous faites revenir vos poivrons coupés en petits dés dans une poêle avec vos échalotes suées. Vous pouvez déglacer vin blanc, ajouter un peu d'eau pour pouvoir cuire le poivron jusqu'au bout. Vous allez cuire une dizaine de minutes et vous allez faire réduire à feu fort pour évaporer un maximum de l'eau donc qui sera contenue dans votre poêle. Vous allez faire réduire, vous pouvez mixer. S'il reste de l'eau, une fois votre préparation mixée, vous pouvez retourner dans une casserole ou dans la poêle pour faire réduire à nouveau. Voilà, pour le concentré de poivron, une fois que vous avez fait votre concentré, vous le réservez au frais et on va attendre la fin de la cuisson pour l'incorporer à notre goulash. Alors, les ingrédients du goulash, donc c'est un ragoût de viande, plutôt de viande de bœuf à la base, mais vous pouvez très bien utiliser du mouton, du porc ou du veau. Donc voilà, on utilise plutôt les bas morceaux, les morceaux à bouillir, le paleron, etc. Vous allez avoir besoin d'oignons, de vin rouge, de farine, de sel, de poivre, éventuellement de fond de veau. Vous pouvez utiliser des légumes racines, des poivrons entiers et des pommes de terre selon la saison et selon ce que vous avez sur le marché chez votre fournisseur de légumes. C'est un ragoût plutôt ouvert, hein, donc vous pouvez y mettre tout un tas de choses et donc l'ingrédient central du goulash, c'est le paprika. Un ragoût qui a une couleur très rouge qu'on peut éventuellement tomater en fin de cuisson avec un peu de concentré de tomate ou de concentré de poivron, donc pour terminer notre liaison et pour donner de la profondeur à la couleur. La technique, vous allez marquer votre viande, donc vous allez la faire revenir dans le beurre ou dans l'huile à feu fort pour lui donner une belle couleur bien brune. Une fois que vous avez obtenu cette couleur bien brune sur votre viande, vous allez faire suer votre oignon ciselé et là vous allez y rajouter votre paprika, éventuellement vous pouvez y mettre un peu de cumin en poudre et vous réincorporez votre viande à votre cocotte. Je n'ai pas précisé mais voilà, ce ragoût il se fait dans une grosse cocotte, une grosse marmite. Donc une fois que vous avez remis votre viande avec vos épices et votre oignon ciselé dans votre fond de cocotte, vous allez pouvoir singer. Est-ce que ça te parle ce terme de singer, Théo?
Pas du tout.
Alors,
Explique-moi.
singer, il s'agit d'ajouter de la farine en début de cuisson sur vos ingrédients, dans votre beurre, comme pour faire un petit roux qu'on va ensuite allonger avec notre bouillon de cuisson. Donc, vous allez singer, donc mettre votre farine sur vos morceaux de viande et mélanger tout ça. Et vous allez déglacer vin rouge à ce moment-là. Donc on déglace, on est déjà revenu sur ce terme de déglacer plusieurs fois dans les chroniques. Donc vous allez incorporer un liquide froid dans votre récipient de cuisson chaud, ce qui va permettre de décrocher les sucs de cuisson au fond de la casserole et de les dissoudre, puisque les sucs de cuisson sont des substances solides et qui visqueuses et du coup qu'il va falloir dissoudre afin qu'elles s'intègrent à votre liquide de cuisson. Une fois que vous avez déglacé, vous allongez, donc soit avec de l'eau si vous cuisinez de la viande de mouton ou d'agneau, ou un fond de veau, un bouillon de légumes, n'importe quel type de bouillon si vous utilisez une autre viande. À ce moment-là, vous allez cuire au moins 2 heures et petit à petit, vous allez rajouter vos légumes racines dans votre eau de cuisson et vos pommes de terre dans votre liquide de cuisson. Donc vous savez que par exemple les carottes elles ont besoin de bien 1 heure dans votre liquide de cuisson pour cuire, pour arriver à être tendre. Donc vous allez, si vous partez sur 2 heures de cuisson, vous faites cuire votre ragoût 1 heure avant de mettre les carottes. Au bout de 1 heure et demie de cuisson, vous estimez qu'il vous faut une demi-heure pour cuire vos patates coupées en 4, par exemple, pour qu'elles arrivent aussi à cuisson. Et voilà, et vous avez votre ragoût. Vous allez terminer en y ajoutant le fameux concentré de poivron qu'on aura réalisé auparavant. Et votre ragoût est prêt. Vous n'avez plus qu'à rectifier l'assaisonnement, le sel, le poivre et rectifier la texture. Donc décider de remettre à ébullition plus ou moins longtemps selon si vous voulez avoir un ragoût très épais ou une sauce plus liquide selon le niveau de liaison que vous voulez obtenir. Il y a deux façons de consommer ce goulash, ce ragoût. La première, ça serait plutôt la solution d'hiver, j'ai envie de dire, donc presque comme une soupe. Hein, donc avec un bouillon, avec un liquide de cuisson qui est plutôt peu réduit, qui est plutôt liquide, à manger dans un espèce de saladier ou de grand bol, type bol à ramen par exemple. Ou vous avez la solution qui pour moi est plus adaptée pour l'été, mais comme on l'a dit, il n'y a pas de règle. La deuxième solution, c'est donc de le faire réduire, sa sauce, son liquide de cuisson, donc sur le feu, vif, sans couvercle, pour que un maximum d'eau s'évapore. Je vais te demander, Théo, est-ce que tu as identifié qu'est-ce qui fait la liaison de notre sauce dans ce plat? Il y a plusieurs éléments qui assurent la liaison de notre goulash.
Moi, j'aurais dit comme ça la poivronnade qui va participer et les sucs de cuisson des différents légumes qui vont un petit peu fondre dans la sauce et qui vont permettre d'épaissir tout ça.
Alors, tu as bien identifié notre poivronnade, notre concentré de poivron à la fin. Ce ne sont pas les sucs de cuisson qui vont permettre de faire la liaison, puisque les sucs de cuisson sont en quantité assez réduite dans la préparation finale. Par contre, on a la farine avec laquelle on a singé un début de cuisson qui va assurer une grande partie de la liaison. Et si on met des pommes de terre, les pommes de terre également assurent une grosse partie de la liaison.
Grâce à l'amidon.
Grâce à l'amidon, et oui. Comme dans le Miramax, si je me souviens bien de cette recette, la pomme de terre est responsable d'une partie de la
liaison. On laisse carrément fondre dans le Miramax, tout à fait.
Voilà, on a pour liquide de cuisson le vin rouge et l'eau ou le bouillon de légumes ou le fond d'eau. Et voilà, voilà pour le goulash. Moi, c'est une recette que j'aime beaucoup. À toi.
Bah écoute, déjà, merci pour la recette. J'ai bavé sur le micro. Quand est-ce qu'on la mange à la coloc? Je n'attends que ça.
Bientôt.
Moi, de mon côté, je vais vous parler du veau aux olives, du coup, qui est une... Je vais vous donner la recette de ma famille, qu'on mange un petit peu dans le sud, à tout moment de l'année, et particulièrement l'été, je vous avoue. C'est un petit peu le plat chaud qu'on se permet... en saison d'été. Pour le veau aux olives, il vous faudra du coup du veau, hein, vous vous en doutez bien, à peu près 1 kg pour 4 personnes, je dirais. Je vais vous donner la recette pour 4 personnes et vous pourrez multiplier ou faire le ratio en fonction de combien vous êtes. Du coup, il nous faut du veau, un oignon, 3 à 5 gousses d'ail, je dirais, pour les plus gourmands, 2 petites carottes, une bouteille de vin blanc, un blanc sec plutôt. Essayez de ne pas prendre les vins les plus chers, hein, celui-là on les garde pour les boire en mangeant le ragoût, bien évidemment. Il va vous falloir en épices du laurier, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Et pour la cuisson, on va commencer avec le veau. Comme pour le ragoût de Ludwig, il va falloir saisir le veau. Moi j'ai une tendance à le saisir très longtemps, j'aime bien quand le veau grille énormément et qu'on a une quantité de sucre assez importante au fond de la casserole. Je vais commencer à déglacer mes sucs en rajoutant de l'ail et l'oignon. L'oignon va permettre de libérer un petit peu d'eau qui va déjà commencer à déglacer. Et ça va permettre de les caraméliser aussi un petit peu au passage. Une fois que ça c'est fait, on va vouloir rajouter du coup le vin blanc. C'est le vin blanc qui va nous servir à déglacer et qui va nous servir à faire la base de la sauce. Ça va permettre de cuire le ragoût sur une longue période. Donc vous mettez la bouteille entière. Moi je vous avoue que sur ce genre de choses, j'hésite pas à y aller. Hein. Vous pouvez même en mettre un petit peu plus si vraiment vous sentez que le goût n'est pas là au bout d'une heure ou une heure et demie de cuisson. Une fois que vous avez rajouté le vin blanc, vous laissez cuire à peu près une demi-heure, une heure, pour les mêmes raisons que Ludwig a avancé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos légumes soient trop fondants, je dirais. Après c'est toujours pareil, hein, ça dépend de comment est-ce que vous aimez vos sauces. Si vous aimez que le légume participe à la liaison de la sauce, vous pouvez les mettre dès le moment où vous mettez le vin blanc. Du coup vous rajoutez les carottes, les olives bien évidemment, hein, faut pas oublier. Ah, et j'ai oublié de préciser, bien évidemment le veau au début, vous le saisissez avec de l'huile d'olive, il faut pas déconner. Une fois que vous avez fait tout ça, pardon, que vous avez mis tous les ingrédients dans la popote, vous allez mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une bonne 4-5 pincées d'herbes de Provence, on en veut pas mal, hein, on veut que ça imbibe bien, et la petite feuille de laurier. Vous laissez mijoter pendant au minimum 2h30, je vous dirais, si vous voulez garder vos bouts de viande encore assez intacts, mais quand même bien fondants, Et si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus lié, un petit peu plus sauce mélangée, vous pouvez aller jusqu'à 4-5 heures de cuisson assez tranquillement. Et j'ai envie de te dire, comme tu disais au tout début, ce plat peut se manger froid aussi. Donc n'hésitez pas à le laisser reposer après coup si vous n'avez pas envie de le manger complètement chaud sous 40 degrés au soleil. Et si jamais vous sentez que la sauce n'est pas assez liée, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de farine que vous mélangez d'abord dans un petit verre d'eau, histoire que ça ne fasse pas des gros grumeaux. Et vous mélangez ça dans la popote en continuant à cuire, la farine va s'épaissir et ça va épaissir le plat. Et si jamais vous êtes trop habitué à ce ragoût, parce que vous l'avez fait 5 fois dans la semaine tellement il est bon, vous pouvez le modifier en ajoutant en fin de cuisson une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate par exemple, ou alors une à deux cuillères à soupe de moutarde. Même les dents en même temps, ça change un petit peu, quoi, ça modifie un petit peu le goût, et c'est pas mal du tout.
Oui, c'est assez intéressant. Alors, je vois les différences de techniques qu'il y a entre Tarcette et Marcette. Alors, il y a notamment le fait d'amener la farine à cuire plutôt au début ou plutôt à la fin de cuisson.
Ouais.
Donc, moi, j'ajouterais je pense que j'en ai déjà parlé à l'antenne, de mettre la farine plutôt au début ou à la fin, ce qui ne change pas grand-chose au résultat. Pour moi, il y a une certaine facilité à ajouter la farine plutôt au début, de facilité de mélanger la farine dans le corps gras, plutôt dans
Oui.
le bouillon à la fin.
Puis tu évites au final d'avoir les grumeaux,
Exact.
nécessairement.
Et je dirais, si vous ajoutez votre farine en fin de cuisson, donc après la cuisson de votre viande dans le ragoût, faites tout de même recuire votre ragoût
Oui.
au moins 10 minutes, un quart d'heure afin de cuire la farine.
Exactement. Qu'elle
L'histoire
s'épaississe et
qu'elle
qu'elle...
s'épaississe et aussi que la farine soit rendue plus digeste que crue.
Tout à fait.
Et en plus, qui donne un goût, le goût de farine crue que moi, j'aime pas du tout. Alors moi, j'avais deux, trois petites questions sur Tarcette. J'aime bien le fait de pouvoir lier un ragoût avec plein de choses. Et en effet, la moutarde fait un très bon lien.
Tout à fait.
Concentré de tomate, en fait, c'est recette. Alors, j'essaie que dans les chroniques de donner des techniques et des recettes qui sont réutilisables un peu à sa sauce et dont on peut s'inspirer avec les ingrédients qu'on a chez soi. Et moi, je suis sûr que si vous fouillez un peu vos placards, votre frigo, votre cellier ou je ne sais quoi, peut-être votre jardin, vous allez trouver de quoi faire un plat en sauce, un ragoût, quoi. Peut-être que vous vous en doutiez pas, mais un peu de fécule, alors voilà, du concentré de tomate, un fond de pot de moutarde, quelques légumes, etc. Et vous pouvez improviser un ragoût comme ça. Ce qui m'étonne dans ta recette et que j'ai envie de questionner, c'est qu'il n'y a pas du tout d'eau. Tu
Non,
cuis
pas
dans
du
le vin
tout.
blanc, ouais.
Alors, au fur et à mesure de la cuisson, si vous sentez que le niveau du ragoût descend un petit peu trop et que la viande et les légumes sont plus imbibés d'eau, là, effectivement, vous pouvez rajouter un verre ou deux tout au long de la cuisson pour garder le niveau stable jusqu'au moment final où vous ferez réduire pour épaissir la sauce.
Mais le liquide de cuisson principal, c'est le vin blanc.
C'est entièrement le vin
Et
blanc.
donc tu mets suffisamment de vin blanc pour que toute ta viande et tes légumes
Ah,
soient immergés.
je mets minimum la bouteille entière. Alors après, mettez pas deux bouteilles. Si vous sentez que vous avez fait, sauf si bien évidemment vous faites vraiment le double du dosage que j'ai proposé. Sinon, mettez une bouteille, déjà c'est pas mal. Et si vous sentez que votre casserole, votre contenant est un petit peu trop haut par exemple, ou un petit peu trop large pour que le vin couvre tout, bon là n'hésitez pas à rajouter un verre d'eau.
Ok, et eh ben super, ouais, c'est intéressant, c'est qu'ils sont complètement dans le vin. Donc tu disais de pas prendre un grand cru pour faire la cuisson. Après, moi j'ai envie de dire, faites attention à l'acidité du
Oui.
vin blanc, surtout du vin blanc dans la bouteille carrée en plastique
Ah, je
là.
conseille effectivement pas la villageoise. La villageoise, elle marche très bien pour déglacer un petit plat où on a besoin d'avoir juste une pointe du goût du vin blanc. Mais effectivement, pour les ragoûts qui utilisent la bouteille entière, là, vous allez rendre votre plat complètement acide.
Et est-ce que tu veilles à porter ton vin blanc à ébullition?
Pas nécessairement. Moi, j'ai plutôt une tendance à éviter dans mes ragoûts de faire monter. À part dans le Miramax qui finit par être tellement épais que là, nécessairement, des bulles vont sortir. En général, j'évite l'ébullition pour éviter d'avoir une cuisson trop haute en température. J'ai l'impression que ça a une tendance à casser un petit peu le goût de certains aliments. Moi, j'aime bien garder vraiment toutes les saveurs de chaque élément que je mets dans mes ragoûts. Du coup, je reste sur des températures de cuisson en général entre 80 et 90 degrés, je dirais.
Ok, donc plutôt vraiment basse
Basse
température, quoi.
température, légère bulle sur le côté de la casserole.
Petite ébullition.
Exactement.
Dernière question, est-ce que tu cuis ton ragoût avec un couvercle ou sans couvercle?
Sans couvercle, la majorité du temps. Et comme je disais, je rallonge avec de l'eau si nécessaire. Je préfère, ça me permet de pouvoir déjà le surveiller. On voit qu'est-ce qui lui arrive, on voit qu'il réduit, on se rappelle qu'il faut touiller aussi. N'hésitez pas à touiller vos ragoûts, sinon ils vont cramer sur le fond. Et d'ailleurs, petit conseil, si jamais vos ragoûts crament, c'est pas nécessairement grave. Juste changez le plat instantanément et ne grattez absolument pas le fond. Si vous ne grattez pas le fond, le carbone n'aura pas le temps, ne se mélangera pas avec le reste du ragoût. Mais si vous grattez, par contre, vous allez tuer votre ragoût et ce sera fini, il sera à jeter.
Du coup, avant de conclure, ça me donne envie de lâcher une spéciale dédicace à Mousse qui a fait laisser un peu accrocher son bourguignon à son examen de CAP. Mais tu vas l'avoir quand même, on est de tout cœur avec toi.
Avec toi à fond.
Et voilà, eh bien, on espère que vous allez manger des plats en sauce tout l'été, puisque franchement, il n'y a pas de raison.
Soyez gourmands.
Et alors Théo, je ne désespère pas de t'emmener en studio, hein, même si c'est pas pour cette semaine, tu passeras l'épreuve du direct et
L'expérience me tente.
on dira que ça fait partie de ton parcours d'intégration sur le territoire. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine, Justine, à bientôt.
Cat food, cat food, cat food, again!